quand même, ça va certainement s'appliquer dans notre vie chrétienne tous les jours. Je parlais ce matin dans ma classe d'école du dimanche, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit là, mais on parle de consécration. Ça fait deux, trois dimanches de suite qu'on parle de ce que c'est la consécration. Quand Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, c'est beaucoup. En fait, c'est tout ce que l'on a. Et c'est ça que d'être consacré à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est « Donne-moi ta vie. Je t'ai donné la mienne. Donne-moi la tienne aussi. » Et des fois, on avance un petit peu à reculons sur certains aspects de notre vie où ce que on n'ose pas toujours tout donner à Dieu parce qu'il y a peut-être certains aspects de notre vie où ce qu'on a peur d'abandonner un certain contrôle dans notre vie. Et tout le long de notre marche avec Dieu, ben on va chercher à mettre en pratique ce commandement-là que Dieu nous a donné, qui est de nous donner à lui entièrement, corps et esprit. Et on voyait, je citais ce matin, je vais juste répéter rapidement, différentes craintes, pourquoi est-ce qu'on a de différentes craintes que l'on aurait que de s'abandonner à Dieu. Et que même dans la vie chrétienne, on a différentes craintes. Par exemple, la peur de la volonté de Dieu, ce que Dieu pourrait me demander, parfois on pourrait avoir ces peurs-là, la peur de ce que Dieu pourrait nous prendre, la peur de peut-être que Dieu va me refuser quelque chose, la peur de perdre notre indépendance. On dit, je m'abandonne totalement à Dieu, puis on aurait peur de peut-être perdre notre indépendance. La peur de l'inconnu, si j'abandonne tout ce que j'ai à Dieu, puis je lui remets entre ses mains, il y a une certaine part d'inconnu, et il y a une grande part de foi, en fait, que de dire, j'abandonne ma vie entre tes mains, mais c'est bien quand même. La peur de perdre notre sécurité humaine, si je peux dire, là, ce qu'on se bâtit, ce qu'on se crée, quand on l'abandonne à Dieu, ça pourrait nous faire peur. La peur peut-être des tribulations, la peur de notre incapacité. Si je donne tout ce que j'ai à Dieu, Dieu veut m'utiliser, ben je serai pas capable. Je serai pas capable de faire les choses que Dieu me demande. Et comme je disais ce matin dans ma classe, c'est une bonne chose que de réaliser qu'on ne peut pas faire tout par nous-mêmes avec Dieu. Mais Dieu veut qu'on lui emmène nos 5 pains, nos 2 poissons, puis il va les multiplier par 5 000. Et puis, c'est ça qu'il veut faire avec nos vies. Mais même avec nos incapacités, la grâce de Dieu va abonder. Et puis, la peur de perdre un certain confort. Mais avec les craintes que l'on pourrait avoir dans notre vie chrétienne, avec les craintes qu'on pourrait lutter que de dire, je vais abandonner ça à Dieu, comment ne pas laisser mes choix? C'est une question que je vous pose. J'aimerais avoir quelques commentaires. Comment ne pas laisser soit mes choix, mes actions, être guidés ou influencés par la peur? Quel moyen est-ce que je peux prendre pour ne pas laisser la peur guider mes choix, mes actions? C'est quoi? Je vous laisse tourner, là, ça va sortir bientôt. À moins que ma question n'était pas claire, dites-moi là. Oui, Joanne. Ouais. Je ne laisserai pas la peur contrôler ma vie en faisant confiance à Dieu. D'autres choses aussi. Oui, Danny. Ouais. 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 Alors, on peut lutter contre la crainte, la peur, l'inquiétude qu'on en aurait dans le présent, pour le futur même, en se souvenant comment est-ce que Dieu est intervenu dans le passé. Et Dieu est un Dieu qui nous encourage à se rappeler des choses. Dieu, là, plusieurs choses, j'avais vu René après ça, Naomi, mais Dieu, on lit dans les textes, particulièrement dans l'Ancien Testament, les monuments que les gens faisaient, je lisais la semaine passée, comment est-ce que, en traversant le Jourdain, Dieu avait dit, prenez des roches. L'autre bord, Josué disait, prenez-les, mais faites un monument, puis souvenez-vous. Puis il y a plein de fêtes comme ça qui nous sont données pour qu'on se souvienne, parce que sinon, notre mémoire humaine, on aurait tendance à oublier la main de Dieu dans nos vies. Puis on doit s'en souvenir, puis ça nous aide à dire, non, je ne craindrai pas maintenant, parce que je vois comment est-ce que Dieu a agi dans le passé, et en continuant la ligne, bien, je vais voir qu'il va répondre aussi dans le futur. Oui, René. Oui. Ouais. 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 C'est bon de faire le premier pas et d'avoir cette perspective-là, comme tu dis, d'avoir une lampe à nos pieds, la lumière qui se projette. Donc, on va faire un pas à la fois. Et oui, Naomi. Ouais. Alors, en apprenant à connaître Dieu, nos craintes vont diminuer. Puis on va revenir, comme on dit aussi tantôt, la confiance qu'on va porter à Dieu. Parce qu'on le connaît. On connaît son le passé, comment est-ce qu'il a agi. Et on n'aura pas peur pour le futur aussi, pour faire des pas vers l'avant. C'est humainement, la peur revient, pourrait revenir souvent. Différentes choses reviennent nous faire peur, nous amener de la crainte. Puis il y a beaucoup d'encouragement dans les Écritures sur de ne pas se laisser justement contrôler ou de ne pas s'empêcher d'avancer pour Dieu, de marcher pour Dieu à cause de la crainte, à cause de la peur. Et on pourrait citer plein d'exemples dans les Écritures où ce que les gens étaient confrontés à une crainte et puis en prenant courage, ils allaient au-delà de leur crainte. On a parlé de Pierre ce matin. On imagine Pierre, comment est-ce que dans la chambre à haute, il était prêt à aller en vainqueur jusqu'à la mort en suivant Jésus. Puis finalement confronté dans l'épreuve, mais il a probablement eu peur d'être identifié à Jésus, peut-être peur de passer par les tribulations, différentes choses, la peur d'être maltraité comme Jésus. Si je m'associe au maître, est-ce que je vais être traité comme le maître finalement? Et il y a peut-être des craintes, cette peur-là qui l'a amené finalement à dire non, je ne le connais pas. Puis cette peur-là, on connaît la suite de l'histoire où ce qu'on sait que Pierre a passé par-dessus cette peur-là en mourant pour le Seigneur. En sachant que maintenant il était prêt à passer par-dessus ces craintes-là. Oui, il y en avait, mais avec Dieu, il a quand même, il a passé par-dessus ces empêchements-là qui l'amenaient à renier son Seigneur plus tôt. En étudiant le prochain bloc de texte sur les juges, il y a un passage qui m'est venu en tête qui ne vient pas des juges, mais qui s'accorde bien, je pense, avec les prochains juges. En fait, on pourrait les libérateurs. Ce qui sont Déborah et Barak, et qu'on va voir dans Juges 4. Vous pouvez déjà commencer à tourner. Comme je disais à mon frère René plus tôt, c'est pas Barack Obama, Barak et Déborah qu'on va parler ce soir. Barak était, on va voir par lui à travers un peu ce qu'on a vu, peut-être un peu de crainte. En même temps, ce soir, je veux pas lancer de roche non plus à Barak. Peut-être qu'on peut s'associer à lui, à de voir sa relation qu'il a eue avec Déborah, comment est-ce que Dieu l'a utilisé et comment est-ce qu'il a dû lui-même aussi passer par-dessus, j'imagine, une certaine crainte qu'il avait. Quand on lit le texte des juges, avant que je vous dise le texte qui m'est venu en tête, on imagine, on est dans des situations de conflit, de guerre, d'ennemis qui prend d'assaut, je peux dire, le pays, puis qui sont très présents, puis qui asservissent le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a perdu le contrôle, n'a plus le contrôle dans le pays, ne contrôle plus ce qui se passe et sont grandement opprimés. Et cette perte de contrôle-là, j'imagine, emmène beaucoup de gens en Israël à craindre ce qui se passe aussi. C'est pourquoi ils veulent aussi une délivrance. Isaïe 35, est-ce qu'il y en a un qui le connaît par cœur? Peut-être quand je vais vous commencer à le dire. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, votre délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je trouve que ce verset-là va résumer bien l'encouragement que l'on a pour nos vies nos vies chrétiennes, notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu, et à travers l'histoire des juges, mais voir aussi comment est-ce que on imagine que ces deux personnages-là avaient confiance en Dieu. Barak est cité dans le Nouveau Testament. En quelle occasion? Dans Hébreux, dans les héros de la foi. Hébreux 11, je pense que je l'ai noté. Hébreux 11, je pense que c'est verset 32, c'est ça. Hébreux 11, 32, Barak est cité parmi les héros de la foi. Alors, on va lire son histoire ce soir. On va lire l'histoire de Déborah, les deux qui sont ensemble. Et regardez comment est-ce que à travers ce texte-là, on voit que la liberté, elle est là. La liberté, elle est sur le point que d'être possible pour ces gens-là. Et la force semble à manquer encore, mais en même temps, elle sera donnée pour la victoire. On va faire un mot de prière et après ça, on va aller lire dans Juges 4. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ta main, elle est présente, elle nous transforme. Et on veut ce soir, Seigneur, ouvrir nos oreilles à ta parole, que tu parles à nos cœurs, et de voir comment ces textes-là, qui s'est passé il y a plusieurs années, comment est-ce que tu as agi à travers eux, comment est-ce que tu t'es intervenu, Seigneur. Et en même temps, on veut les prendre en exemple pour faire les bons choix, Seigneur, éviter aussi les mauvais choix, et te donner un plein accès à nos vies pour que tu nous transformes, pour qu'on puisse marcher avec toi avec fidélité en toutes choses et éviter justement ce cycle de désobéissance que le peuple continuait, mais qu'on reste dans la victoire, Seigneur. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen. Juges 4, on va commencer avec les trois premiers versets pour placer le contexte. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Aroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et l'opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. On arrive à cette troisième apostasie-là du peuple, qu'ils abandonnent Dieu ou ce qu'ils en viennent à un point où ce qu'ils font encore ce qui déplaît à l'Éternel. À partir de quel moment? Quand Éhud est mort. Éhud, on avait vu la semaine passée ce juge-là, comment est-ce qu'il était allé tuer le roi directement dans sa tente. Un juge peut-être qui a usé de manipulation ou de tromperie un petit peu, mais du moins qui a tué le roi, qui a porté le premier coup fatal. Et on voit en même temps, à travers le verset 1, l'influence que Éhud avait sur le peuple, où ce que il a gardé le peuple attaché à Dieu. Puis au moment qu'il est mort, on voit le peuple qui retombe dans ce qu'il déplaisait à Dieu, qui est l'abandon finalement de Dieu pour aller vers d'autres idoles. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait avec son peuple quand il l'a abandonné? Il les vendit entre les mains des nations qui étaient là. Et ce n'était pas nouveau, il l'avait déjà vécu et Dieu l'avait prédit aussi avant qu'ils entrent en terre promise. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Et le chef de son armée était Sisra. Alors on a une nouvelle nation. La semaine passée, on parlait des Moabites, des trois nations, particulièrement du sud. Et puis là, on se retrouve maintenant au nord, à Canaan. Et le roi en question, c'est Jabin. J'ai pensé apporter une carte ce soir, mais c'est pas nécessairement très, très clair, parce que c'est un peu trop foncé. Mais on voit, tantôt, on lisait le mont Tabor. On va le voir un peu plus tard, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Mais on se trouve vraiment au nord. La semaine passée, il y avait les Ammonites, Moabites, et puis les Amalécites un peu plus bas. Puis là, on est vraiment au nord. Je peux le laisser juste comme ça, David, c'est correct. Ouais, on va surtout regarder au nord. OK. Fait que finalement, on se retrouve avec les Cananéens qui sont vraiment au nord et qui viennent justement attaquer Israël, qui viennent reprendre finalement leurs anciennes possessions. Parce que quand le peuple est rentré en terre promise, ils ont chassé les nations. Et puis, en fait, on avait lu il y a plusieurs semaines dans le chapitre 1 que c'était plutôt ils ont permis qu'ils habitent parmi eux, puis les ont assujettis à un tribut. Alors, les Cananéens étaient encore présents. J'imagine qu'il y en a certains qui étaient chassés, qui ont quitté, mais là, ils sont revenus prendre leurs anciennes possessions. Jabin, le roi, et le chef militaire, qui est Sisera, est là et qui a une grosse armée. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Des chars de fer. Ils en ont 900. Israël en a combien? Zéro. Zéro char de fer. Mais ils ont bien plus qu'un char de fer, par exemple, avec eux, qui ont laissé de côté pendant quelques années, malheureusement. Alors, les enfants d'Israël ont commencé à crier, verset 3, « crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. » Pourquoi est-ce qu'Israël crie à Dieu maintenant? Comment? L'épreuve? Qu'est-ce qui les a amenés à crier à Dieu? Comment? Ils sont tannés d'être opprimés. Qu'est-ce que tu as dit, Claude? Ils n'en pouvaient plus. La souffrance. Ils en sont venus à un point là que c'était lourd. C'était difficile. Ils étaient durement opprimés. Et le texte spécifie en disant qu'ils les opprimaient avec violence depuis plus de 20 ans. Ils avaient perdu littéralement leur liberté dans leur propre terre. Regardez chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On comprend que l'oppression des Cananéens qui redescendaient les opprimait avec violence, les monopolisait, les gardait... gardaient leur déplacement ou ce qui est certainement qu'ils bloquaient des routes principales pour se déplacer. Alors, ils étaient un peu isolés, particulièrement au nord. Merci pour le crayon. Parce qu'on va voir justement que c'est la tribu de Nephtali et de Zabulon qui vont être opprimés. Et des chemins principaux qui passent justement, je pense, à Tsar. C'est ça, c'est vers le croissant fertile, c'est ça? Alors, c'est une ville principale. Et maintenant, les Cananéens, on imagine qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils oppriment le peuple, et puis qu'ils ont perdu beaucoup de leur liberté à cause qu'ils ont abandonné Dieu, à cause qu'ils ont délaissé Dieu pour se tourner vers d'autres idoles. Puis Dieu est intervenu en amenant les autres nations pour les châtier, pour qu'ils en viennent à un point qui crie à Dieu, qui retourne à Dieu, et quand il crie à Dieu, le cycle, et on le répète encore, mais quand il crie à Dieu dans tout le cycle, à chaque fois qu'on va le répéter, est-ce qu'il y a un moment que Dieu ne répondra pas? Dieu va toujours répondre quand le peuple de Dieu crie à son Dieu. Et dans ce temps-là, verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. On voit la suite, que Dieu va intervenir pour délivrer son peuple. C'est un peu le contexte de ce qui s'en vient pour placer Déborah et puis Barak, les deux ensemble. J'aurais besoin d'un volontaire qui veut lire peut-être les versets 4 à 10. On va commencer par ce premier bloc-là. Frédéric. OK. Première section. Qu'est-ce que l'on apprend? On a les premiers textes qui nous parlent de Déborah. Qu'est-ce qu'on apprend de Déborah? Qu'est-ce qu'elle faisait pour le peuple? Elle était juge. Qu'est-ce qu'elle faisait comme juge? Quel était son rôle comme juge. Et c'est le premier, premier juge qu'on voit ce titre de juge-là. Elle faisait vraiment le rôle de juge. Les autres étaient des libérateurs, c'est le mot que je cherchais. Et là, Déborah, particulièrement, est une juge. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Et le peuple, verset 5, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre aussi? Elle était juge. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? J'ai entendu autre chose tantôt. Elle était prophétesse. Quel était le rôle d'un prophète à ce moment-là et en fait en tout temps? Le rôle de prophète était certainement de rappeler l'alliance de l'Éternel avec le peuple, d'encourager puis avertir le peuple de suivre l'Éternel, qui la bénira ou même les châtira selon leur désobéissance. Et Déborah était là pour rappeler ces principes-là importants que le peuple devait se souvenir. Malheureusement, le peuple était encore sous la pression à cause de leur désobéissance. Qu'est-ce que l'on connaît aussi de Déborah? Qu'est-ce que l'on connaît? Est-ce qu'il y a d'autres femmes que l'on peut nommer dans les Écritures qu'on considère comme des héroïnes pour Dieu? Esther, j'ai pas entendu qui a dit Esther. Esther, pourquoi Esther? Ouais. Elle a sauvé son peuple parce qu'elle était prête à certainement donner sa propre vie pour délivrer son peuple de l'oppression du roi. D'autres femmes que l'on connaît comme ça aussi. J'ai entendu un autre nom? Je veux ouvrir une petite parenthèse pour Rahab, okay, qui est une femme qui est citée aussi dans les héros de la foi, à cause de la foi qu'elle a eue, parce qu'elle avait entendu ce que Dieu avait fait, mais elle a certainement manifesté sa foi en accueillant les espions. Quoi d'autre aussi? Oui, Danny? Oui, ben c'est une bonne question. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est la seule. Est-ce que c'est la seule prophétesse? Qui que donne? Il y avait Anne. Oui. Mais oui, du temps des juges. Mais alors, je pense, j'ai pas vérifié l'information pour juge. Je pense que c'est la seule juge. Mais pour prophétesse, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce que tu as dit, René? Oui. C'est ça. Oui. 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 Et je pense, regardez le verset 7, 5, 7, excuse. Oui, et il y a eu Anne, comme on a dit tantôt. Il y avait Marie aussi, la sœur de Moïse. Et puis, le Nouveau Testament parle aussi que la femme qui prie et qui prophétise, mais qu'elle soit voilée. Alors, la femme qui priait ou qui prophétisait, elle pouvait le faire, mais étant voilée. Alors, on voit dans les Écritures la femme qui a un rôle. Et là, particulièrement, on passe par-dessus Déborah, qui est un personnage intéressant. Et puis, verset chapitre 5, verset 7, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Un peu comme peut-être qu'on disait tantôt, c'était peut-être pas nécessairement une démocratie qu'il avait placée juge, mais elle était peut-être reconnue du moins comme une mère en Israël, où ce que les gens ont apprécié son travail, ils venaient vers elle et bénéficiaient, j'imagine, de son jugement. Et elle était prophétesse aussi. Et dans les versets 6 et 7, quelle était la parole de Dieu que Déborah a dit à Barak? Quelle était la parole que Dieu voulait transmettre à Barak, qui est sortie par Déborah. Qu'est-ce que Dieu avait à dire à Barak? Mais vas-y, là, c'est le temps ou jamais. Ouais. Ouais. OK. Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire finalement à Barak? Il est en train de dire, prends les hommes, Nephtali, de Zabulon, 10 000, puis lève-toi, puis vas-y. Vas-y maintenant. Et Dieu est en train même de dire, et ce qu'il a dit ne s'arrête pas là aussi. Il en ajoute un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il dit d'autre aussi? Il est en train de dire l'ordre. Il est en train de dire, Barak, lève-toi. Va chercher des hommes. Barak doit convoquer les tribus d'alentour et puis descendre sur le mont Tabor pour attaquer Sisra dans la plaine. Et puis, Barak devait, c'est ça, aller chercher ses gens. Mais qu'est-ce que Dieu a dit d'autre aussi à Barak? Peut-être même pour l'encourager. C'est moi qui vais les attirer vers toi. Je vais les envoyer vers toi. Et regardez verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Dieu est en train de dire à Barak, Barak, je veux que tu y ailles. Tu vas aller rassembler 10 000 hommes, tu vas monter sur la montagne, puis tu vas attendre là, puis moi, ce que je vais faire, je vais attirer à toi Sisra, ses chars, son armée. Ça peut paraître peut-être un peu impressionnant. Dieu est en train de dire, je vais les amener à toi, mais je vais les livrer entre tes mains. Je vais te les donner. Déborah est en train de dire cette parole prophétique-là à Barak pour dire, voici qu'est-ce que Dieu te dit. Voici qu'est-ce que Dieu te demande et quel encouragement il te donne avec ça aussi. Ou est-ce qu'il y avait une promesse liée justement à cette parole-là? Et je pense que je l'ai lu là, quelques semaines, Deutéronome 21.1, je fais juste vous le citer. « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. » Barak n'avait pas à craindre ce que Dieu allait les amener vers lui, parce qu'il devait avoir la foi. Comme on disait tantôt, de ne pas avoir cette crainte-là, et comment je ne vais pas me laisser contrôler par ma crainte, mais je vais placer ma foi en Dieu. Je sais comment est-ce que Dieu est intervenu dans le passé, et puis je sais que Dieu va intervenir aussi dans le présent. C'est ce que certainement Barak pouvait se souvenir lui-même des paroles de Moïse dans Deutéronome. Qu'est-ce qui fait que la promesse de délivrance, Dieu est en train de dire, Barak, je te demande de faire ça, puis voici ce que je vais faire pour toi. Je vais les livrer entre tes mains. Qu'est-ce qui fait que cette promesse-là de délivrance qui était servie entre les mains, aux mains de Barak, n'a pas fait lever Barak d'un seul bond de sa chaise pour dire « j'y vais ». Comprenez-vous ma question? Il a peur? Il a peur de quoi? Le 900 chars de fer. Humainement, on comprend très bien de quoi probablement qu'il avait peur. Mais comment ça se fait que la promesse de Dieu, de délivrance, que Dieu venait de lui dire, je vais les livrer entre tes mains, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas levé d'un bond sur sa chaise? Il avait peur, mais quoi d'autre aussi? Oui, M. Dumont. Oui. Alors, peut-être que la foi de Barak n'était pas encore à un point où il n'avait pas envie de bondir. Oui, Danny. Oui. Sous la pression. Oui. 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 Oui, René. Oui. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Humainement, pas, C'est ça. Ouais. 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 On l'a juste ici, le mont Tabor, puis la vallée de Megiddo. Et puis, alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Dieu, il savait ce qu'il allait faire. Dieu, il savait comment est-ce qu'il allait les livrer. Mais humainement, c'était inconcevable, parce qu'on va le voir comment ça va se passer, mais c'était inconcevable que de dire, ben, on va avoir la victoire de par notre propre force en allant là. Ils avaient des chars et se battre, comme on vient de dire, dans la plaine. Ben, c'était humainement pas un plan stratégique très, très vendeur. Et puis, peut-être que Barak a manqué un peu ce courage-là. Mais la promesse que l'on a de Dieu devrait nous amener à considérer le fait que Dieu agit avec fidélité. Dieu me demande des choses peut-être que ma compréhension humaine ne voit pas de logique là-dedans, mais Dieu me demande d'y aller. Puis Dieu me promet la délivrance, me promet qu'il va les livrer entre mes mains. Et Barak, ben, c'était quoi sa réponse? C'est quoi la réponse que Barak il donne? Si j'y vais, si tu y vas, j'y vais. Puis si tu n'y vas pas, j'y vais pas. C'est à qui il vient de dire ça? À Dieu, d'une façon? Mais c'est à qui il tentait de parler, là? À Déborah. Mais qu'est-ce qu'elle avait, Déborah, de plus que Barak? Elle avait l'assurance. Assurance, certainement, que Dieu allait agir. Et comment ça se fait que Barak, il regarde cette femme-là, que j'imagine dans ma tête, là, j'ai pas creusé plus, mais je l'imagine un peu âgée. Et qui était assis là en train de juger le peuple, de donner ses conseils au peuple. Et Barak, lui, qui est le chef militaire, puis il dit, Déborah, si tu viens avec moi, j'y vais. Mais si tu y vas pas, j'y vais pas. Certainement qu'il avait besoin d'un... Et je pense qu'on peut s'identifier à Barak. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de ce push-là, de frères et de sœurs pour nous faire avancer. Puis en même temps, ça ne devrait pas nous empêcher que de dire, parce que j'ai la promesse de Dieu, j'avance. Je le fais, j'y vais. Et Barak avait cet élément-là, du moins, on imagine le peuple qui est tellement oppressé, qui voit Déborah, qui est une femme importante, une femme d'influence, une femme sage, et qui voyait en elle aussi, j'imagine, de la confiance qu'elle avait, puis ça le rassurait aussi. Oui. Oui. Peut-être que ça aurait été ça. Et puis, d'avoir la continuité live là, de la parole de Dieu qui se dit au fur et à mesure. Mais de l'autre côté, Déborah, il dit, parce que tu demandes ça, il va y avoir une conséquence. Ça va être quoi? Comment? Oui, ou comment est-ce que tu dis ça aussi? C'est ça. Tu n'auras pas la gloire. Qu'est-ce que tu as dit, Joanie? C'est ça. Le chef militaire, Sisera, tu n'auras pas la gloire, mais la gloire sera donnée à une femme. Et verset 9, elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Déborah, est-ce qu'elle a voulu quand même encourager Barak? Oui, elle l'a fait. Elle s'est levée, est allée avec lui. Elle n'a pas cherché à dire hey, « t'as peur » et puis « laisse donc faire, finalement, t'es pas le bon gars ». Mais elle l'a accompagné, est allée avec lui. Et puis, j'imagine qu'elle avait une perspective plus grande que de juste voir Barak. Peut-être avait peur un peu, mais que j'imagine qu'elle souhaitait par-dessus tout la libération de son peuple. Imaginez Déborah qui était assise sous le palmier en train de juger son peuple, qui est en train d'essayer de régler des difficultés, des conflits qui se passent et de régler beaucoup d'oppression qu'il y a aussi à cause des Cananéens et que cette oppression-là, j'imagine, emmène même le peuple à s'entre-déchirer souvent. Et Déborah voit comment est-ce que l'influence négative directement sur son peuple, comment est-ce que le peuple a besoin de liberté, le peuple a besoin de revenir à Dieu. Et si le peuple revenait à Dieu, probablement que Déborah se disait, je vais avoir moins de travail aussi. Peut-être pas qu'elle le faisait dans le but d'avoir moins de travail, mais elle voyait la conséquence immédiate. C'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que Déborah était si courageuse? Pourquoi est-ce qu'elle a s'est levée? Je vais y aller avec toi. Elle avait confiance en Dieu, en l'Éternel. Déborah s'est levée et a dit, je vais y aller avec toi. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que ce que Barak lui disait, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas. Dieu lui a parlé. Un jeune qui était sensible à Dieu, qu'elle l'écoutait, qu'elle avait la foi, qu'elle croyait dans la promesse que Dieu allait les livrer entre ses mains. Et elle s'est levée et est allée. Et j'imagine, comme on a dit tantôt, que Barak a trouvé ça chez Déborah. Il l'a vu en elle et il voulait amener avec elle Déborah, certainement qui allait l'encourager à continuer d'avancer. Et Barak, comme je disais tantôt, on lui lance pas de roche. Il est quand même considéré parmi un héros de la foi. Et c'est quand même à travers sa main et son armée qu'on va voir la suite que le peuple de Sisera a été chassé. Juste répéter Ésaïe 35:15, car ainsi parle le Seigneur, a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, la délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. J'imagine Déborah comme une femme qui était calme, qui avait confiance en Dieu, puis qu'elle était forte à cause de ça. Le salut était permis à cause qu'elle était tranquille et qu'elle était en repos, et j'imagine que sa confiance se reposait sur Dieu. On a lu tantôt Juges 5:7, et les chefs étaient sans force, en Israël, sans force. Mais cette femme-là, quand je me suis levé comme une mère en Israël, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, elle avait la force pour se lever, puis il y avait des chefs qui étaient là, qui eux n'étaient sans force pour se lever. Où était sa force? Je suis convaincu que c'était dans la confiance qu'elle avait en Dieu. Tournez tout de suite. En fait, le chapitre 5, on va puiser dedans, ici et là, une fois de temps en temps, parce que c'est le cantique de Barak et de Déborah, et qui synthétise un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Et dans les versets 16 à 18, on voit que Barak n'était pas le seul à avoir besoin de soutien à ses côtés. Et il y en avait d'autres qui avaient peur aussi. Versets 16 à 18. « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables ?» À écouter les bêlements des troupeaux au ruisseau de Ruben. Grandes furent les délibérations du cœur. Galaad est au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazar s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. On imagine qu'il y a eu plusieurs chefs, plusieurs même tribus qui ont eu peur, qui sont restées. Puis d'autres tribus, comme les tribus qui ont été enrôlées par Barak, Nephtali, Zabulon, qui a eu 10 000 hommes qui sont allés avec lui. J'imagine motivés par cette même confiance-là qu'ils avaient en Dieu. Parce que si c'était humainement, il n'y en avait plus beaucoup de confiance. Dieu, il avait un plan de délivrance pour son peuple, parce que son peuple avait crié à lui. Hey boy, je suis juste à la moitié, puis il était 45. On va quand même lire les versets 12 à 16, puis on terminera la suite de l'histoire la semaine prochaine. Je veux pas non plus aller trop vite, là, puis passer par-dessus des choses qui sont intéressantes. Lisons les versets 12 à 16. Je passe intentionnellement par-dessus le verset 11, qu'on reviendra la prochaine fois que je prêcherai, là, qu'on va joindre au prochain bloc. Y a-t-il un volontaire qui voudrait lire les versets 12 à 16? Juges 4, 12 à 16. Richard. OK. On voit la suite de l'histoire, comment est-ce que Dieu a répondu clairement à ce qu'il avait dit, et de voir comment est-ce que Barak, Déborah et le peuple est délivré, il est béni par la main de Dieu qui opère ces choses. On informe Sisra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Alors on informe Sisra, le chef de l'armée des Cananéens. Barak est parti dans la montagne, puis il semble se préparer pour une bataille, pour une guerre. Le peuple d'Israël a besoin de coordination. Il est un peu démuni pendant ces années-là où ils ont plus le contrôle. Mais là, il semble y avoir un mouvement où 10 000 hommes se déplacent dans la montagne et puis ils montent. Et là, depuis chez lui, à Rochem Goïm, Sisra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars. Sisra rassemble ses chars. C'est qui le fait là? C'est qui le conduit? Sisra. Puis tantôt, quand on a lu la parole que Déborah avait à dire à Barak, c'est qui allait conduire finalement? C'est l'Éternel. Il allait les conduire justement dans la vallée. Et puis, sera rassemblé vers le torrent de Kizon, tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. On imagine qu'il y avait plusieurs hommes. On imagine que son armée était très grande, était gigantesque. Et avec ses 900 chars de fer, ça devait être impressionnant. Et là, Déborah et Barak, ils sont là. Et Déborah dit à Barak, qu'est-ce qu'elle lui dit? Comment? C'est le temps. Lève-toi. Voici le jour. Voici maintenant le temps où ce que Dieu livre Sisra entre tes mains. Et qu'est-ce qu'elle l'a dit pour l'encourager encore? Qu'est-ce qu'elle l'a dit encore dans cette dernière phrase-là du verset 14? L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Dieu est devant toi. Crains pas. Descends la montagne avec tes 10 000 hommes et Dieu marche devant toi. Deutéronome 31:3, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Elle détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. C'est Dieu qui avait dit ça encore. Une autre parole, j'imagine que Barak pouvait serrer dans son cœur et de dire, Dieu marche devant moi. C'est Dieu qui va donner cette délivrance-là. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Quelle est l'issue de la bataille? Comment? Vas-y, l'autre, je n'ai pas entendu. Une victoire? Comment le début de la victoire a commencé? La fuite, ils se sont sauvés. Et comment la victoire se déroulait? Probablement, regardez le verset 15. Barak qui descend avec ses 10 000 hommes, et puis l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak y descendait, on imagine que c'était au tranchant de l'épée, et c'est qui les chassait? C'était l'Éternel encore qui les a mis en déroute. Puis j'imagine un autre élément intéressant à regarder. Oui, René, t'as levé la main, tu veux dire quelque chose? Tu veux pas voler le punch, là? Ouais, regardez, allez lire dans Juges 5, versets 19 à 22. On va comprendre à travers la poésie du chant de Barak et de Déborah qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu parce que les 900 chars de fer, ils sont imposants, puis ça roule vite, puis ça en écrase du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19 à 22. Quelqu'un qui veut lire? Vas-y, René. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est intervenu directement par un torrent ancien. Un déluge mouillé d'une façon probablement où ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir avec leur char. C'est ça, qui ont calé avec leur char de fer dans le bout et puis plus capable de sortir de là. C'était deux roues motrices puis c'était pas assez. Et puis ils sont restés là et puis finalement, leur char de fer devient complètement inutile, même embarrassant. À un point tel que, on va voir plus tard, Sizra, il préfère sauver à pied. C'est bien plus efficace, ils sauvent à pied. Mais en sauvant à pied, en perdant complètement leurs moyens, ils sont, j'imagine, confondus, ils sont perdus. Et les 10 000 hommes, eux autres, ils descendent bien à pied et avec l'élan de la montagne et puis ils courent après. Et je pense qu'on va arrêter là pour l'instant. On vient de voir l'issue de la bataille que Dieu a délivré son peuple à travers Barak et Déborah, que Dieu les a utilisés à travers ces 10 000 hommes qui sont enrôlés, qui sont partis pour se battre dans la vallée, dans la plaine de Megiddo, et que Dieu est intervenu pour d'une façon surhumaine, d'une façon que peut-être le plan humain n'aurait pas imaginé, mais Dieu a entendu le cri de son peuple. Dieu veut donner la liberté. Et quand que Dieu a entendu le cri de son peuple qui est en oppression, et puis qui en a assez aussi de souffrir les conséquences de son péché, Dieu intervient et les libère. Et puis, on va voir la suite. On va voir la suite de l'histoire la semaine prochaine, je pense. Terminons par un mot de prière. Je vais juste relire une dernière fois avant qu'on fasse un mot de prière. Et c'est vraiment juste la dernière chose. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous le voulez? Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci encore. Tu prends soin de nous et de toutes sortes de façons, tu nous délivres. Tu veux qu'on vive cette liberté-là, cette victoire-là, Seigneur, sur le péché dans nos propres vies. On veut marcher avec toi, on veut marcher auprès de toi. Ce que tu nous dis, Seigneur, on veut l'écouter puis on veut le faire aussi. Seigneur, tu nous promets toutes sortes de choses que tu places devant nous. On a à faire ce premier pas-là pour y aller. Et on veut prendre courage, Seigneur. C'est quelque chose que tu nous demandes, que de ne pas se laisser contrôler par la peur humainement, mais tu nous demandes de placer notre confiance en toi, de te faire confiance. Et c'est comme ça qu'on veut marcher, en vainqueur sur la terre, en marchant pour toi. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.